Europe 1. Sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Historiquement Vaut, 2 heures où chaque après-midi on vous raconte l'histoire, vous le savez, sans se la raconter. Enfin, quand Stéphane ne répond pas aux appels de ses fans, très nombreux.
Allô, oui.
Allô.
Bonjour.
Bonjour, c'est Chantal.
Oui.
La présidente de votre fan club, Stéphane.
Mais oui, absolument.
Ça va?
Bien, merci. Je suis en train d'enregistrer une émission, mais dites-moi.
Ah oui, avec le grand barbu, on s'en fout. Vous venez toujours ce week-end, on a une signature de Tekel de prévu.
D'accord.
Vous restez pour le vin d'honneur, hein?
Je resterai.
Vous venez avec vos chiens.
C'est adorable.
Et avec les Macron aussi.
Oui, oui, voilà, ils seront là, bien sûr.
Allez, gros bisous.
Je vous en prie, pas de problème, au revoir.
Bien sûr, ne jamais contredire ses fans, vous avez raison.
Qui est Chantal?
C'est la présidente de votre fan club.
Ah, mon Dieu.
Intéressez-vous à vos fans, Stéphane. Moi aussi, un jour, je pourrais voir les Macron.
Bon, écoutez, appelez-les, Mathieu, de ma part, ça peut vous aider, mais bon, on n'est pas là pour ça. On est d'accord. Bonjour à tous. Quelle joie de vous accompagner jusqu'à 18h à la rencontre, comme d'habitude, de trois personnages très différents qui ne vivaient pas à la même époque, mais qui avaient tous un point commun.
Aujourd'hui, malgré votre tenue qui ne semble pas l'indiquer, Stéphane, on part en forêt.
Oui, mais pas n'importe laquelle. Direction l'Eldorado, l'enfer vert, le poumon de la planète, avec trois personnages qui ont zoné dans l'Amazonie. A commencer par Charles-Marie de la Condamine, scientifique et astronome, membre de l'Académie royale des sciences de Paris, parti descendre l'Amazone comme un défi. Puis lui aussi est parti en Amazonie, plus qu'un défi, un rêve de gosse. Le jeune Raymond Maufray a choisi d'arpenter seul la jungle guyanaise à la rencontre d'une montagne de légende habité par les Indiens, mais c'est la mort qu'il a trouvée au bout du chemin. Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'un garçon qui a bien failli lui aussi laisser sa peau en Amazonie.
Oui, plus récemment, Stéphane, il est brésilien, il s'appelle Senna, Antonio Senna. Il y a tout juste un an, son avion s'est écrasé dans la forêt amazonienne, mais vous allez voir, il a su rester stoïque jusqu'au bout, c'est ça qui l'a sauvé.
Ça va, oui. Sauf que l'avion perd de l'altitude. On fonce sur les arbres. Je n'aurai pas assez de temps pour sortir les trains d'atterrissage.
Mais il y a quoi qui va?
Ce qui va, c'est que je suis là.
Il avait confiance en lui. C'était gagnant.
Et avec nous, comme chaque jour, aussi ont confiance et restent stoïques. En toutes circonstances, ce sont nos célèbres chroniqueurs. Elle nous entraîne dans l'intimité des grandes mondes. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, pendant que vous zonerez en Amazonie, moi, je vais m'intéresser aux Amazones. Non pas les guerrières scythes de l'Antiquité, mais ces nobles dames qui, pendant les guerres de Vendée, se bâtirent comme des lionnes et sont entrées dans l'histoire sous le nom d'Amazones, les Amazones de Charette. Vous savez, Charette, c'est le plus connu des chefs vendéens, celui qu'on appelait en 1795, le roi de la Vendée.
Avec nous également David Cassel-Lopez qui remonte aux origines de quelque chose qui fait partie de notre quotidien
tout
aujourd'hui.
Et aujourd'hui, un sujet qui m'a été soufflé par Clémentine Portier-Kaltenbach, les sondages, les origines des sondages. Depuis quand est-ce qu'on on fait des sondages comme ça? Depuis quand est-ce qu'on a trouvé la méthode pour les faire? Je vous dirai tout ça.
Est-ce qu'il y avait des sondages dans la Grèce antique?
Pas que je sache.
Et avec Olivier Pouls, évidemment, on remonte aux origines d'un plat, d'un mets.
Ouais,
et là, aujourd'hui,
on va s'intéresser
chose qui va tenir
à la
au corps.
Poutine.
La poutine.
Oh là là, la
spécialité québécoise qui conquiert le monde, d'ailleurs.
On pourrait croire. C'est des frites trempées dans du fromage,
bah, hein. C'est un combo frites, fromage et une sauce un peu particulière.
Ah là là, aïe.
Mais vous surveillez votre cholestérol quand même ou...
Non.
Non, on fera ça dans quelques années, vous avez raison. Pas d'inquiétude. Enfin, survivre dans la jungle amazonienne sans eau, sans nourriture, sans téléphone, c'est possible. Mais pas sans Burn to be Alive.
Oh.
Le face-à-face toujours croustillant de deux pontes de l'histoire, ce sera aux alentours de 5h moins le quart. Mais tout d'abord, découvrons notre premier personnage du jour.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Il s'est aventuré en Amazonie au péril de sa vie et au nom d'une passion, l'exploration. Stéphane Bern lasse ses chaussures de rando, se badigeonne de citronnelle et remonte jusqu'au XVIIIe siècle pour suivre les traces d'un incroyable téméraire, le scientifique Charles-Marie de la Condamine.
Je me trouvais dans un nouveau monde, éloigné de tout commerce humain, sur une mer d'eau douce, au milieu d'un labyrinthe de lacs, de rivières et de canaux qui pénètrent en tous sens une forêt immense. Mes yeux ne pouvaient se lasser de faire le tour de l'horizon, de l'eau, de la verdure et rien de plus. On foule la terre aux pieds sans la voir. Elle est si couverte d'herbes touffues, de plantes et de broussailles. Une pierre, un simple caillou est aussi rare que le serait un diamant. En entendant cette description remarquablement vivante des contrées reculées de la forêt amazonienne, votre esprit n'a pas pu s'empêcher d'imaginer un reporter intrépide, ou peut-être un explorateur type Indiana Jones sur les traces d'une cité perdue. Eh bien non, pas du tout. Celui qui a écrit ces lignes était plus porté sur les culottes courtes et le juste au corps, plus enclin à se coiffer de soyeux rouleaux de cheveux sur les oreilles que d'un chapeau Fedora. Car oui, ces mots ont été écrits par Charles-Marie de la Condamine, scientifique et astronome français du XVIIIe siècle, membre de l'Académie royale des sciences de Paris, parti descendre l'Amazone d'ouest en est en 1743. 1743, non mais imaginez un peu, à 9000 km de là, de l'autre côté de l'Atlantique, Louis XV, dit le bien-aimé, règne sur la France. Cette année-là, le cardinal de Fleury, son principal ministre, vient de mourir, laisse enfin au roi l'occasion de gouverner seul sur le royaume, et bientôt une certaine Jeanne-Antoinette Poisson deviendra Madame de Pompadour, maîtresse en titre du roi. Le luxe de Versailles d'un côté, la luxuriance de la forêt amazonienne de l'autre, entre ces deux univers aux antipodes, un lien improbable, s'est pourtant bien tissé par l'intermédiaire de ces deux hommes d'une incorrigible curiosité, le savant et explorateur Charles-Marie de la Condamine et Louis XV lui-même, prince cultivé s'il en est et grand financeur d'exploration maritime lointaine, par l'intermédiaire de son ministre de la Marine de l'époque, le comte de Maurepas. Tout commence 7 ans plus tôt. Le 16 mai 1735, ce jour-là, un navire de la marine royale s'apprête à lever l'ancre du port de La Rochelle pour rejoindre Carthagène des Indes en Amérique méridionale. À son bord ont embarqué une dizaine de savants en partance pour la cordillère des Andes, au Pérou. Le grand scientifique Charles-Marie de la Condamine fait partie de ceux qui dirigent cette expédition. Il est spécialisé notamment dans l'astronomie et la géodésie, comprenez l'étude de la forme de la Terre. C'est bien cela qui motive cette mission géodésique française qui doit mettre un terme à une querelle qui divise les savants de l'époque depuis fort longtemps, à savoir l'aspect exact de notre planète. Est-elle ovale mais aplatie au niveau des pôles, comme le prétend Newton? Ou est-elle aplatie à l'équateur, comme le prétendent les cartésiens? La réponse coûtera cher aux explorateurs français. Dans cet univers hostile qu'est la cordillère, la mission fait plusieurs victimes. Un mort du paludisme, un autre assassiné pendant un mouvement de foule, et finalement, après 7 années d'observation du ciel et de calculs complexes menés dans de pénibles conditions, le verdict tombe, Newton avait raison. Ces difficultés n'ont en rien entamé l'enthousiasme de la Condamine pour ce continent hostile. Bien au contraire, l'homme a 2 traits de caractère bien marqués. Il est curieux jusqu'à l'excès, ce qui lui vaut d'ailleurs le surnom de l'inquisitif, et il est également courageux, certains diraient même téméraire. Rien d'étonnant quand on connaît son parcours, car ce fils d'un receveur des finances, né en 1701 à Paris, fut d'abord soldat avant d'être scientifique, avant que sa passion pour la chimie et les mathématiques n'ait raison de cette carrière militaire, et lui valent d'être élu à l'âge de 29 ans à l'Académie royale des sciences. Un homme comme ça ne se décourage pas. Et contre toute attente donc, la Condamine décide au terme de sa mission, non pas de rentrer sagement en France par le port de Carthagène, mais de faire un petit détour, et pas des moindres. Il passera par la route la plus longue et la plus dangereuse qui soit, par le cœur du continent à travers la forêt amazonienne, l'une des régions naturelles les plus isolées au monde, sur le mythique et méconnu fleuve Amazon. C'est ainsi que le 11 mai 1743, la Condamine, 42 ans, entame son incroyable voyage de retour vers l'Europe. De Tarqui, terre australe à 5 lieues, au sud de Coahuinca, il débute un périple à travers la cordillère des Andes, direction la partie haute du fleuve. Il lui faut ainsi 2 mois pour rallier 300 kilomètres plus au sud, la ville péruvienne de Jaén de Bracamoros, située près de l'un des affluents majeurs de l'Amazone, Rio Marañón. C'est là que le 4 juillet, il entame sa descente de l'Amazone. Il embarque à bord, non pas d'un bateau confortable, ni même d'un canot, mais d'un radeau de bois que lui construisent des Indiens du coin. Radeau certes assez grand pour le transporter lui, ses instruments et son bagage, mais radeau quand même. Dans cette partie haute du fleuve, il n'y a que ce type d'embarcation qui peut résister à l'impétuosité du courant. Et la Condamine va bientôt la prendre à ses dépens. Les passages difficiles sont nombreux dans cette partie encore très en relief du Rio Marañón. C'est le cas par exemple du détroit d'Escurebragas qui vaudra à la Condamine une belle frayeur. Car en cet endroit, pour reprendre ces mots, le choc des eaux avec toute la vitesse acquise par le rétrécissement du canal crée un tourbillon fort dangereux. Pris dans ce piège, le 9 juillet 1743, son radeau n'y fait que tournoyer, les eaux le ramenant sans cesse vers le milieu du lit de la rivière où la rencontre du grand courant forme des vagues qui menacent de le submerger. Heureusement pour la condamine, il n'est pas seul. 4 Indiens le suivent en canot et parviennent non sans mal à le sortir de cette mauvaise passe. Au cours de ce mois de juillet, la condamine débouche enfin sur la plaine amazonienne, au niveau de la province péruvienne de Meinas. Ses yeux, accoutumés depuis 7 ans à voir des montagnes se perdre dans les nuages, sont stupéfaits de ce qu'ils découvrent alors. Cette fameuse mer d'eau douce, au milieu d'un labyrinthe de lacs, de rivières et de canaux, qui pénètre en tous sens une forêt immense. À l'orée de ce monde étrange d'eau et de luxuriance végétale, il est rejoint dans son péril par un certain Pedro Vicente de Maldonado, collaborateur scientifique dont il a fait la rencontre 6 ans plus tôt au Pérou. C'est ensemble qu'ils vont poursuivre le voyage jusqu'à la côte atlantique. Trajet au cours duquel les deux hommes feront nombre d'observations scientifiques précieuses sur les caractéristiques du fleuve d'abord, mais aussi sur les espèces animales et végétales inconnues qui peuplent ses rives, sur les propriétés et les usages des sucs de certains arbres, curare, quinine, caoutchouc. Ensemble, ils enquêtent aussi sur l'existence des Amazones et sur le pays mythique de l'Eldorado, des légendes véhiculées par les explorateurs des 16e et 17e siècles. Sans succès, car, selon les mots de la condamine, tout semble avoir disparu comme dans un palais enchanté. Ils atteignent finalement l'Atlantique à Para le 19 septembre 1743 et embarquent à Cayenne, point final de leur voyage en février 1744, pour enfin revenir en Europe en août de la même année. La condamine était loin de penser que son voyage en Amérique du Sud occuperait 10 ans de sa vie. Et le voilà qui retrouve Paris. Il y fait devant ses confrères de l'Académie des sciences le récit incroyable de ses aventures, ce même récit dont est tirée l'histoire que je viens de vous raconter.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Charles-Marie de la Condamine, nous avons le plaisir d'accueillir celui qui introduit la réédition de ses voyages en Amérique. Bonjour Mathias Soubise.
Bonjour.
Bonjour Mathias Soubise, vous êtes doctorant en littérature française du XVIIIe siècle à l'ENS Lyon. Et vous avez en effet établi et introduit la nouvelle édition de l'ouvrage de Charles-Marie de la Condamine, Voyage en Amérique aux éditions Les Belles Lettres. Déjà, comment sont organisées ces expéditions? C'est le roi lui-même qui, avec son ministre de la Marine, demande à la Condamine de mener ces expéditions loin.
Alors non, c'est un peu l'inverse. C'est l'Académie des sciences elle-même qui décide en interne d'envoyer 2 expéditions. L'une au pôle Nord, en Laponie, qui est dirigée par Maupertuis, et l'autre au plus près de l'Équateur, donc dans le vice-royaume du Pérou, qui est dirigée par un trio d'académiciens. Et c'est l'Académie qui décide d'envoyer ces expéditions et qui ensuite demande au ministre de la Marine, le comte de Maurepas, de bien vouloir les soutenir et les financer.
L'enjeu premier de l'expédition, Stéphane a dit, c'est de déterminer la forme exacte de la Terre. D'où vient la géodésie, comme on dit, et pourquoi ça, elle connaît un tel succès à l'époque?
Alors, la géodésie, c'est la science de la détermination de la forme du globe terrestre. C'est un peu la science mère de la cartographie. Il y a un tableau très célèbre de Charles Le Brun qui représente Colbert introduisant Louis XIV à la nouvelle Académie des sciences fondée en 1667. Et sur ce tableau, les principaux objets scientifiques sont des objets qui ont trait à la cartographie. Vous avez des globes, vous avez des instruments de mesure et vous avez des cartes. Parce que pour un État moderne, il faut connaître le territoire. Et comment est-ce qu'on connaît le territoire? C'est en le cartographiant. Et donc la géodésie est une science extrêmement importante en interne pour le royaume de France et aussi à l'extérieur du royaume, puisque connaître la forme de la Terre, ça permet de créer des cartes plus sûres et donc d'assurer la navigation et la navigation surtout des marchandises.
Alors Mathias Soubise, c'est vous qui introduisez et qui avez établi le texte de ces voyages en Amérique, réédité dans une édition illustrée aux belles lettres, des voyages au pluriel, puisque dans cet ouvrage il y en a 2, hein, le récit du voyage sur l'Amazone, publié dès 1745, et le journal des 10 années de voyage en Amérique, publié en 1751. Ces 2 récits, s'ils font partie du même grand voyage, se lisent, vous l'expliquez, comme 2 expéditions bien distinctes. Pourquoi?
Alors ça tient d'abord au fait que la Condamine choisit de publier 2 récits différents. Il publie d'abord son récit de voyage le long de l'Amazone, qui est un récit qu'il considère comme beaucoup plus grand public, comme on dit aujourd'hui. Alors que le journal de voyage, beaucoup plus long, qui relate les 10 années de voyage, s'adresse plutôt à un public plus aguerri. Donc on a d'une part un voyage académique, sérieux, un peu plus aride à la lecture, parce qu'il s'agit de rendre compte de manière exhaustive d'une expédition scientifique, et d'autre part un voyage plus personnel, qui relève davantage de l'aventure et aussi de la curiosité.
Et ce voyage retour dont on a parlé, en décidant de repartir le long de l'Amazone, c'est sa propre décision, il n'est plus en mission scientifique à partir de ce moment-là. Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent à ce qu'il parte comme ça sur l'Amazone, ou est-ce qu'il s'est désolidarisé de son groupe finalement?
Alors, en fait, le groupe se désagrège de manière un peu naturelle, puisque chacun revient par ses propres moyens ou reste en Amérique du Sud. Et lui, en effet, il a la mission géodésique est terminée, mais sa mission scientifique n'est pas finie, puisque revenir par le fleuve des Amazones, c'est parachever, continuer aussi une autre mission scientifique, qui est celle de la cartographie de ce fleuve. Pour lui, il a toujours une éthique scientifique à l'œuvre, même dans un voyage qui est beaucoup plus personnel.
Mais toutefois, on découvre dans le livre qu'il y avait un certain nombre de tensions qui existaient dans le groupe. Vous parlez de désagrégation, mais c'est vrai qu'il y a des tensions, des rancœurs qui agitent tous les membres de cette expédition, peut-être des jalousies aussi entre les uns et les autres.
Il y a d'abord des dissensions qui sont d'ordre scientifique, parce que je l'ai évoqué, il y a un trio de têtes pour cette expédition, et vous avez une opposition entre la Condamine et son collègue Pierre Bouguer d'une part, et d'autre part Louis Godin qui était censé être le chef de cette expédition, et les deux groupes s'opposent quant au protocole et aux objectifs de cette expédition.
Ils s'étaient mis d'accord avant de partir?
Alors, il y avait des accords, mais en fait, en arrivant sur place, on se rend compte qu'on va pas pouvoir tout faire, et sauf que Louis Godin voulait s'acharner au projet initial, là où la Condamine et Pierre Bouguer étaient plus arrangeants et peut-être plus réalistes.
Alors, on parle science, mais on parle aussi philosophie, puisque dans votre introduction, vous dites que la Condamine entretient de bonnes relations avec les philosophes des Lumières, et Voltaire notamment, qui l'a surnommé l'ambulant philosophe. En quoi la Condamine était un esprit éclairé de son temps?
C'est un esprit éclairé, c'est un esprit assez représentatif de cette curiosité des Lumières, c'est-à-dire c'est un scientifique qui un peu touche à tout. Il commence par la physique, les mathématiques, l'astronomie, la géodésie. Il s'intéresse aussi plus tard à l'inoculation de la petite vérole, donc les premières formes de vaccination qui apparaissent au XVIIIe siècle. C'est un touche-à-tout scientifique, c'est un homme des salons, c'est un homme de la mondanité. Donc il réunit de manière assez exemplaire le portrait robot de cet homme des Lumières qui est à la fois scientifique, littéraire, il est élu à l'Académie française, et plongé dans un monde de civilité.
Alors, comme Ulysse, il a fait un beau voyage, mais quelles sont ses grandes découvertes à la Condamine? Son voyage en Amazonie a-t-il permis des découvertes majeures ou secondaires?
Des découvertes peut-être pas, mais en tout cas une meilleure compréhension de ce qu'était cet espace amazonien sans doute. Sa grande découverte, son grand trésor qu'il rapporte en France, c'est une carte. Une carte beaucoup plus fiable de ce fleuve. Et il ramène aussi des descriptions beaucoup plus précises de la faune, de la flore, de l'espace amazonien.
Comment il travaillait, la Condamine? Tous les soirs, je sais pas, il y avait un bivouac, j'imagine, sur les bords du fleuve. Et tous les soirs, il notait sur des carnets ses observations. Mais est-ce qu'il tenait un journal de bord avec, d'un côté, ce qui était très scientifique et de l'autre côté, ses impressions personnelles pour qu'il ait, en quelque sorte, fait deux récits distincts?
Alors, malheureusement, on sait qu'il écrivait sur des carnets. Malheureusement, ces carnets ont été perdus. Donc, on n'a pas de traces exactes. On n'a que le résultat final, qui sont les publications imprimées. Mais en tout cas, oui, on sait qu'il écrivait systématiquement tout ce qu'il faisait tous les jours, ce qui lui a permis ensuite d'écrire son journal de voyage quasiment jour par jour.
Alors aujourd'hui, ça nous fait un peu rêver cette histoire, mais est-ce qu'à l'époque, quand il revient à Paris, à l'Académie des sciences, qui présente ses découvertes, comment il est accueilli? Il est acclamé? Ça valait vraiment les 10 ans d'absence sur les bancs de l'Académie, ou l'accueil est plus circonspect?
Alors, la Condamine revient au printemps 1745, et en fait, la question de la figure de la Terre, elle est déjà un peu passée. Elle est déjà un peu passée de mode, puisque Maupertuis, qui était parti en 1736, revient un an après de Laponie, triomphant avec ses résultats de mesure qui disent que la Terre est aplatie au pôle. Donc quand la Condamine revient pour dire exactement la même chose...
Mais quand il revient, il pense qu'il est le premier à le dire, ou
il sait déjà. Mais du coup, en fait, comme il le sait déjà, il choisit de ne pas raconter son voyage géodésique, puisqu'il D'accord. sait que ça n'intéresse plus grand monde, oui. parce que la condamine cherche aussi à tirer bénéfice personnel de cette expédition, parce qu'il veut qu'on se souvienne de lui. Et il a sous le coude un voyage que personne n'a fait. Donc, il va raconter ce récit de voyage pour s'attirer les faveurs du public, et c'est un succès. Et c'est sans doute pour cela aussi que ces récits de voyage sont richement illustrés, puisqu'il veut se mettre en scène aussi visuellement pour marquer les esprits. Et je note au passage en fait les illustrations réalisées par Benjamin Van Blanc dans l'édition des Voyages de la Condamine, qui parachève assez brillamment le travail du voyageur.
C'est très bon.
Merci en tout cas, Mathias Soubise, d'avoir retracé avec nous le parcours de cet explorateur téméraire. Je rappelle la nouvelle édition du récit Voyages en Amérique de la Condamine que vous introduisez aux éditions Belles Lettres et qui, eh bien, pour l'occasion, intègre de très belles illustrations, vous l'avez souligné, réalisées par Benjamin Van Blanc.
Merci à vous.
Merci à vous.
16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires en étant toujours très à cheval sur les faits. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, de cheval, il est forcément question, puisque vous nous parlez des Amazones, d'un certain François Charette de la Contrie.
Oui, absolument, Stéphane. Mais déjà, juste pour le plaisir, rappelons l'origine du mot Amazone. Ça viendrait du mot grec signifiant, alors le A privatif, Amazone, privé de mamelle. Ben oui, puisque selon la légende, les Amazones se faisaient couper un sein bien pour sûr. Pouvoir tirer à l'arc. Donc le mot même, c'est privé de mamelle. Mais enfin, là, il ne s'agit pas des Amazones de l'Antiquité, mais des Amazones vendéennes. Oui, beaucoup de femmes aristocrates se sont battues dans les guerres de Vendée. Pourquoi ? Bien, souvent obligées par les circonstances. C'est parmi ces femmes, certaines ont caché des prêtres réfractaires. Elles ont protégé ou caché leurs frères, leurs maris, leurs pères qui combattaient contre les Bleus, contre la République. Elles se sont mises à se battre aussi pour se venger des Bleus, parfois, qui avaient pillé et mis le feu à leur maison, leur manoir. Généralement, ces femmes sont de très bonnes cavalières, parce que dans toute éducation d'une jeune aristocrate sous l'Ancien Régime, évidemment, il faut savoir monter à cheval. Elles sont aussi plutôt adroites au tir, parce que parfois, il arrive qu'elles chassent. Donc, elles vont prendre les armes et accepter de mener une vie de proscrite, de dormir à la belle étoile, de risquer leur vie. À son quartier général de Léger, L-E-G-E, accent aigu. Le chef vendéen François de Charette est entouré de ses dames et après les combats, il danse le soir avec elles. Et il y a un film qui nous montre ça très bien, c'était Les Mariés de l'an 2, un de mes films préférés. Ça vous dit quelque chose?
Oui,
avec Belmondo, Marlène Jobert, me semble.
Non, c'est Marlène Jobert.
C'est plus vieux. Là, vous confondez avec Les Chouans, avec Sophie Marceau, qui est un très beau film aussi. Alors, parmi ces Amazones, il y a Madame de Fief. Et Madame de Fief est l'aide de camp de Charette. Il y a aussi, vous voyez, dans le rôle donné à ces dames au combat, quelque chose d'extrêmement moderne, alors que c'est le camp qui incarne l'ancien ordre établi. Elle est restée, son mari en fait a émigré, mais elle est restée en Bretagne pour venger la mort de son fils. Alors on la voit galoper à la tête de ses troupes, soit avec un pistolet à la ceinture, ou quand elle est à pied avec son fusil de chasse, et cette dame, elle survivra aux guerres de Vendée. Madame Bulkeley, née Latour de la Cartrie, une femme magnifique et intrépide, je crois qu'on la voit justement dans Les Mariés de l'an 2, parce qu'elle conduit ses troupes avec une robe verte, une écharpe blanche à la taille, un pistolet à la ceinture, et elle sera arrêtée, cette dame-là, mais elle fera comme Olympe de Gouges pour essayer d'éviter la guillotine, sauf qu'elle, ça fonctionnera. Elle va prétendre être enceinte et donc elle survivra également aux guerres de Vendée jusqu'à 79 ans. Elle aura 4 maris, sacré tempérament. La comtesse de Bruck, épouse d'un officier, elle se battait à cheval munie avec un sarbe et elle menait toute une bande de femmes armées de bâtons. Et elle aura moins de chance que Madame de Fief et Madame Bulkeley. Elle est au cours d'une échauffourée, comme sa selle est mal sanglée, elle tombe de cheval, elle se casse la figure et il y a un hussard qui passe et qui la sabre. Mais les deux Amazones les plus connues, sans doute, sont Adélaïde de la Rochefoucauld, que les soldats de Charette surnommaient la dame de la Garnache du nom de sa paroisse. Alors la grande question, c'est de savoir si Madame de La Rochefoucauld a eu une histoire d'amour avec de Charette ou pas. Il semble que de Charette attirait beaucoup les femmes, il était très séduisant. Tout ce petit monde est très jeune. De Charette et Madame de La Rochefoucauld ont tous les deux 33 ans. Et ils vont mourir à 33 ans. La mère de la marquise La Rochefoucauld, ça m'a frappé parce qu'elle a quand même un nom, on croirait un sketch de Valérie Lemercier. Sa mère s'appelait Cocu de la Fouchardière.
Les hommes, faut le.
Hein, bon. Alors elle se lance dans la bataille quasiment par accident parce qu'en fait, il y a un groupe de chouans qui vont chercher Monsieur de Charette. Il n'est pas là. Donc, comme ils connaissent les sympathies contre-révolutionnaires de Madame La Rochefoucauld, ben, ils vont la chercher. Elle prend leur tête. Et d'embuscade en embuscade, elle est trahie et arrêtée. Et comme ce jour-là, le jour où on veut l'exécuter, la guillotine est en panne parce qu'elle a trop fonctionné, et ben elle est fusillée dans les dunes au Sable d'Olonne le 24 janvier 1794. Enfin, la dernière peut-être qui est très connue aussi, c'est la marquise de La Roche-Jacquelin. Elle voulait pas du tout combattre, c'était pas spécialement une Amazone, mais elle était folle amoureuse de son mari, le marquis de Lescure, l'un des principaux généraux de l'armée catholique et royale. Et du coup, elle le suivait en carrosse sur les lieux de combat. C'est surréaliste comme oui. Ça. Vous imaginez cette femme qui suit son mari, qui le regarde de loin en train de se battre.
Elle a pris une balle perdue ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est son mari qui a pris une balle perdue à Cholet en juin 93. Et donc, elle prend sa place et c'est elle qui poursuit le combat jusqu'à la défaite finale de Savenay en décembre 93. La chronique nous dit qu'elle portait le pantalon bouffant des Bretons et faisait le coup de feu comme n'importe quel cavalier. Donc, très courageuse, Madame de La Roche-Jacquelin. Et elle a laissé des mémoires. C'est pour ça que c'est elle dont on se souvient le mieux. Elle a servi sa propre gloire et celle de son défunt mari. Alors là, je vous ai cité les Amazones vendéennes, des aristocrates, mais il y a de nombreuses femmes du peuple, bien sûr, qui s'engagèrent aussi dans cette guerre civile. Peut-être la plus célèbre d'entre elles est-elle Renée Bordereau, dite Langevin, qui décida, après la mort de son père, tué sous ses yeux par les Bleus, de se battre jusqu'à la mort. Mais ça, c'est une autre histoire. Oh, et une autre histoire des femmes vendéennes qui furent de sacrées combattantes et qui sont dignes des Amazones de l'Antiquité.
Merci beaucoup, Clémentine.
Et saurez-vous vous montrer à la hauteur de tout ce courage qu'on a évoqué maintenant ? C'est le quiz dans quelques instants.
Je crains que non, hélas. J'ai peur.
Historiquement vôtre.
Elle a récemment apporté sa pierre à l'édifice de la pensée philosophique. Si Shakespeare se demandait s'il fallait être ou ne pas être, si Spinoza se demandait que serait un monde sans Dieu, Clémentine, elle, s'est demandé
que seraient les chapeaux sans les cheveux.
Profitons de cet état de grâce métaphysique pour jouer à Burn to be Alive. Notre célèbre quiz, Stéphane, la première question est pour vous. Vous savez, je vous veux du bien, Stéphane. On va donc commencer par une question sport. Depuis 2008, le Bhoutan est une monarchie constitutionnelle. Ce pays a souvent été invité aux Jeux Olympiques, mais il n'a décroché qu'une seule fois de toute son histoire une place dans une discipline olympique. C'était au cricket, en 1992. Vrai ou faux ? Vous êtes allé au Bhoutan ?
Non. C'est pas simple d'y aller, vous savez.
Oui, enfin, pour vous, tout est simple, Stéphane. Un petit coup de fil et vous aurez un tapis rouge.
Moi, j'aurais plutôt vu...
Moi, je vais vous dire, je pense intuitivement que le Bhoutan, c'est toujours interdit d'aller aux Jeux Olympiques.
Ne fait pas partie ou n'a
jamais participé aux Jeux Olympiques. C'est le pays
du bonheur.
Du bonheur, oui.
L'indice du bonheur.
Bonheur, bien sûr.
Moi, j'aurais intuitivement dit au polo. Je vois plus le Bhoutan associé au polo.
Non, c'est vraiment le toit du monde, voyez.
Ouais.
Il n'y a pas beaucoup d'espace pour organiser des tournois de polo.
Alors, au cricket, pareil.
Je n'ai pas souvenir d'avoir vu aux Jeux Olympiques le drapeau du Bhoutan.
Que vous suivez pourtant assidûment.
Vous connaissez ma passion pour
le sport. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous suivez votre intuition, Stéphane.
Moi, je dirais que c'est faux.
Vous avez gagné.
Mais voilà, Stéphane. Voilà. Oui, vous êtes encouragé, finalement. Ouais, il faut le suivre. Ouais. Alors déjà, le cricket n'a été qu'une seule fois discipline olympique. C'était en 1900 à Paris, depuis rien. Le Bhoutan n'a vu qu'une seule fois une athlète se qualifier pour une discipline. C'était au tir à l'arc, figurez-vous, au Jeux de Tokyo.
Oui.
La sportive s'appelait Karma. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Il y a des canulars célèbres à travers l'histoire. Historiquement, vôtre en est un exemple. On a également à l'esprit celui d'Orson Welles, qui avait inventé une invasion extraterrestre à la radio. Au XVIIIe siècle, en Angleterre, beaucoup d'hommes de médecine ont vu leur réputation exploser car une paysanne avait raconté qu'elle avait accouché de lapins et on l'avait cru.
Oui, c'est vrai, je connais cette histoire.
Vous avez
C'est l'histoire de Marie Toft. Elle a certifié avoir accouché de lapin. Le chirurgien de la cour du roi Georges Ier l'a cru. Elle a fini par avouer avoir menti. Scandale. 2 ans plus tard, elle a une fille. Sur le registre paroissial de 1728, il est écrit que c'est son premier enfant après ses prétendues grossesses de lapin. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Concentrez-vous. Vous connaissez le prix Nobel. Vous connaissez également, certainement, les Ig Nobel. Vous savez, c'est ces prix parodiques qui récompensent les chercheurs et ont fait des découvertes improbables. Eh bien, dans l'histoire, il y a un scientifique qui a décroché les deux prix. Le vrai prix Nobel et un prix Ig Nobel. Est-ce que c'est vrai?
Ce serait tout à fait possible.
Vous imaginez quelqu'un de très pointu scientifiquement se livrer à des expériences plus cocasses?
Il y a parfois des génies qui ont raison trop tôt et aux travaux desquels la communauté scientifique n'adhère pas avant de réaliser qu'elles ont un sens. Donc pourquoi pas?
Moi je dirais oui, parce que ça peut tout à fait... Un prix Nobel a eu le droit de s'amuser aussi. C'est pas parce que vous êtes prix Nobel que vous n'avez pas d'humour, vous voyez.
Le raisonnement est bon, la réponse le sera-t-elle?
Vous avez... gagné!
Victoire, Stéphane. André Geim, physicien néerlandais d'origine russe, il a décroché un véritable prix Nobel de physique en 2010 grâce à ses travaux sur les matériaux bidimensionnels en graphène. Vous avez bien sûr lu, comme
bien
moi,
sûr, bien sûr.
Le résultat de son étude passionnante.
Je m'en souviens parce que ça m'est tombé des mains.
Bien sûr, bien sûr. C'est très lourd le graphène. Et il avait eu un Ig Nobel en 2000 pour ses travaux beaucoup plus légers sur la lévitation des grenouilles grâce à des aimants, figurez-vous. Ouais, il était dans les deux catégories. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Un petit point sur les scores.
2-1.
2-1 pour Stéphane. Attention, c'est qui tout doux. Quand un président américain le devient officiellement, Clémentine, on dit qu'il prête serment. Est-ce que Obama a prêté serment plus de fois ou moins de fois ou à égalité avec Roosevelt? Là, ça nécessite de bien réfléchir.
Je dirais moins. Il a prêté serment. Ah, il a été élu.
Obama a fait 2 mandats.
Il a fait 2 mandats. Il me semble que Roosevelt a lui-même fait voter une loi pour ne pas en faire un 4e parce qu'il aurait été élu probablement. Roosevelt en a fait au moins 3. Il a dû mourir au cours du 3e.
Réfléchissez à l'essence de cette question.
Est-ce que Obama a prêté serment plus ou moins de fois que Roosevelt?
On sait tous qu'Obama a fait 2 mandats. Bon,
oui.
On
le sait à peu mais près. Roosevelt
on hésite un peu.
Roosevelt, me semble-t-il, en a fait 3. Il était à la limite.
Il en a peut-être fait plus, Roosevelt. Mais on
ne
sait pas exactement
combien.
Il était
à la limite d'en faire 4. Mais il me semble que c'est de Roosevelt que date le...
Vous êtes sur la bonne piste.
L'interdiction de faire plus de 2 mandats pour les présidents américains. Non, écoutez, n'allez pas essayer de m'induire en erreur. Moi, spontanément, j'aurais dit c'est Roosevelt qui a prêté serment de plus nombreuses fois qu'Obama.
Êtes-vous vraiment, vraiment
oui,
sûr
oui,
à 100%
oui,
de votre réponse?
Arrêtez, là. Vous voulez susciter, organiser mon humiliation publique, me faire
ou vous sauver la mise, qui sait?
Ouais,
on verra
non,
ça dans quelques
instants. Écoutez, moi, j'aurais foncé dans le mur et je persiste dans mon erreur, si c'en est-il. Je dis oui que Roosevelt a prêté serment plus souvent.
Vous avez...
C'est triste, Stéphane, on dirait moi dans la lutte finale, quand vous essayez de m'orienter vers la bonne réponse et que je reste sur mon idée première.
Alors,
qui est souvent
ça
fausse.
Ça m'épate cette histoire.
Égalité, 4 fois pour les deux. Et là, vous vous dites comment ça, 4 fois? Roosevelt a fait 4 mandats. Il a prêté serment 4 fois. Obama l'a fait 2 fois lors de sa première investiture à cause d'un cafouillage protocolaire.
Oh, bon, d'accord.
Puis lors de la deuxième investiture, il l'a fait également 2 fois, comme la première fois c'était un dimanche, il l'a fait en privé. Et il a voulu recommencer le lendemain devant 800 000 personnes.
4
partout.
Alors là,
entre vous, c'est pas 4 partout. C'est la victoire de Stéphane Bern.
Ah bah c'est dégueulasse. Non, franchement,
vous pouvez sortir la tête
basse. Parce que ce qui compte, c'est de savoir que Roosevelt a fait 4 mandats.
Vous
ne
l'avez pas eu 3.
Oui, justement.
Vous aviez faux sur toute la ligne. Vous n'avez aucune excuse, Clémentine. Vous pouvez quitter le studio, la tête basse.
Vous pouvez être jugé par un nul en histoire, finalement.
Par un nul en histoire. J'ai cru que ça allait être une insulte peut-être suisse, ou non, c'était juste nul en histoire.
Un mauvais.
Oui, et bien la prochaine fois, on verra si je suis aussi gentil avec vous.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre et ça signifie une chose. Vous n'êtes pas réfractaire à l'aventure.
Oh non.
Pour nous guider dans la jungle amazonienne, chère à nos personnages du jour, celui qui n'a jamais eu peur de s'aventurer dans la forêt. Tant que c'était la forêt de pins parasols située en bordure de sa maison de la presqu'île de Saint-Tropez, j'ai nommé l'Indiana Jones de Ramatuelle, Mathieu Noël.
Dans la bouche de celui qui est lui-même un peu le Mike Horn du Perche, voilà qui est flatteur, Stéphane. C'est en tout cas notre thème cet après-midi, des personnages qui ont zoné dans l'Amazonie.
Oui Mathieu, après le scientifique et ambulant philosophe Charles-Marie de la Condamine, qui est parti en mission durant 10 ans, je vous raconte l'histoire du jeune Raymond Maufray, parti lui aussi mais seul en Amazonie pour réaliser son rêve Découvrir des monts légendaires censés se situer quelque part entre le sud de la Guyane et le nord du Brésil. Bon, malheureusement, vous allez voir, il ne les verra jamais. Et puis, vous le savez, dans cette émission, c'est la tradition. Après deux personnages décédés, il vous revient, Mathieu, de nous brosser le portrait d'un personnage vivant. Or, aujourd'hui, on a du mal à croire qu'il le soit.
Oui, puisque Antonio Senna, mon personnage, a survécu non seulement à un crash d'avion terrible, mais surtout à 36 jours de solitude amazonienne, sans vivre, sans eau, mais pas, vous le verrez, sans espoir.
Quand vous parlez comme ça, on dirait presque du Balzac.
C'est vrai ?
Non, mais je me console en accueillant nos chroniqueurs. David Castel-Lopez qui nous raconte les origines d'une chose qui fait vraiment partie de notre quotidien.
De plus en plus, hein, en ce moment, même les sondages d'opinion. Quand est-ce qu'on a eu l'idée de commencer les sondages d'opinion et surtout de les faire bien comme on les fait aujourd'hui.
Et puis avec nous, Olivier Pouls qui remonte aux origines d'un plat, d'une recette qui fait nos délices ou pas. Aujourd'hui, un plat roboratif.
Bah, disons qu'il fait un petit peu frais, donc on va prendre de quoi tenir le choc. Et je vais vous parler de la poutine, vous savez, cette espèce de préparation québécoise un peu particulière avec des frites, de la sauce et du fromage.
Enfin, carottes pour les uns, bâtons pour les autres. Nous jouerons en toute fin d'émission à la lutte finale. Jeu qui permet d'exposer au grand jour le caractère diabolique de Stéphane Bern qui prend un malin plaisir à nous humilier. Pas étonnant pour celui qui confessait dernièrement à son psy.
J'ai un monstre en moi.
Ces réjouissances interviendront aux alentours de 6h moins le quart, mais pour l'heure, découvrons notre deuxième personnage du jour.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Il était jeune journaliste et explorateur, parti en Amazonie réaliser ce rêve de gosse, un périple de plusieurs centaines de kilomètres, seul à travers la jungle guyanaise. Mais il n'en est jamais revenu.
Ouh, où êtes-vous ? On vous cherche partout.
Mais justement, son père, ancien soldat et résistant, le cherchera en vain durant 12 longues années. Stéphane Bern nous raconte Raymond Mauffray.
Nous sommes le 17 juin 1949 au port du Havre. Le Gascogne, un paquebot de 118 mètres de long, s'apprête à lever l'ancre pour rejoindre le port de Cayenne en Guyane française. Sur le quai, un jeune journaliste de 22 ans, les traits fins, le front haut et large, dit au revoir à son père. Les deux hommes ont le cœur lourd, mais ils tentent tant bien que mal de le masquer. Edgar, le père, promet à son fils que s'il n'est pas rentré dans 6 mois, il ira lui-même le chercher. Quant à Raymond, bien qu'il n'ait aucunement l'intention de renoncer, un sinistre pressentiment le tenaille. Il faut dire que le jeune Raymond Mauffray s'embarque ce jour-là pour une expédition périlleuse. Beaucoup dans son entourage ont d'ailleurs tenté de l'en dissuader. Trop risqué, suicidaire, disent même certains. Mais lui, c'est un vieux rêve qu'il nourrit, traverser seul la jungle amazonienne pour atteindre les monts Tumucumac, une chaîne de montagnes censée se situer quelque part entre le sud de la Guyane et le nord du Brésil. Ce rêve, il le nourrit depuis l'enfance, depuis que son père lui a conté la rumeur selon laquelle ces monts légendaires seraient habités d'Indiens aux yeux bleus et de grande taille. L'histoire l'a tant marqué qu'il convainc quelques camarades de classe de rallier la Guyane à pied. Un projet qui, vous l'imaginez bien, ne verra pas le jour. Mais voilà, entre-temps, Raymond est devenu un homme. Et celui que l'on surnommait Otari Téméraire chez les scouts, tant son audace forçait l'admiration, n'a rien perdu de son courage. La Seconde Guerre mondiale a même fait de lui un véritable héros, décoré de la Croix de Guerre, avant même d'avoir 18 ans pour s'être illustré lors de la bataille de Toulon, sa ville natale, en août 1944. Alors, l'Amazonie, vous pensez, ça ne lui fait même pas peur. Cette jungle, qui plus est, il la connaît déjà. En 1946, lors d'un séjour au Brésil, il a participé à une expédition dans la région du Mato Grosso, au cœur du continent sud-américain. Pas n'importe laquelle, qui plus est. Une mission de pacification auprès des Indiens Chavantes, que l'on surnomme les tueurs du Mato Grosso. L'expédition tourne court. Les missionnaires retrouvent les restes d'une mission précédente, dont les membres ont manifestement été massacrés. Puis, ils sont à leur tour attaqués, forcés de fuir, laissant derrière eux l'un des leurs, tué d'une flèche dans le cou. Oui, les dangers de l'Amazonie, Raymond Mauffray les connaît déjà. En ce jour de juin, sur le quai du Havre, il est conscient de ce dans quoi il s'embarque. Mais malgré les doutes qu'il habite, le jeune journaliste, membre du club des explorateurs, est bien décidé à donner corps à son rêve de gamin. Il est temps de tenir la promesse qu'il s'est faite à lui-même. Et puis ce projet, il en a parlé à tout le monde, et à la presse notamment, lors de son retour du Mato Grosso en 1947. Le journal Science et Voyages lui a même offert une avance. Elle est là, dans sa poche. Alors devant son père, sur le quai, Raymond ne flanchera pas. Pas si près du but. Aucun des deux ne le sait encore, à cet instant, mais c'est bien malheureusement la dernière fois qu'ils se voient. Un an plus tard, en juillet 1950, l'agence de presse de Guyane hollandaise annonce au monde entier sa disparition. Ses affaires ont été retrouvées par un Amérindien au beau milieu de la forêt. Ses affaires, oui, mais pas lui. Raymond Maufray ne sera jamais retrouvé. Que lui est-il arrivé ? Les rumeurs les plus folles circulent à son sujet. Dans la presse, on le dit devenu le chef d'un peuple amérindien. On raconte aussi qu'il serait amnésique, qu'il aurait été recueilli par une tribu quelque part dans la jungle. Des rumeurs qui ne font qu'entretenir l'espoir de sa famille et surtout de son père, qui tente par tous les moyens de le retrouver. Pendant près de 12 ans, de 1952 jusqu'à sa mort en 1964, Edgar Maufray, ex-résistant, ex-prisonnier de l'Allemagne nazie, monte 18 expéditions et parcourt plus de 12 000 kilomètres en vain. Ce qui s'est vraisemblablement passé, nous pouvons malheureusement nous en faire une idée. Car parmi les affaires retrouvées dans la jungle se trouvait un journal dont la dernière entrée datée du 13 janvier 1950 laisse peu de place au doute quant à son destin tragique. Après des mois passés à Cayenne à attendre que la bonne occasion se présente, Raymond Maufray débute finalement son périple le 6 octobre 1949 en se greffant à une mission géologique qui doit rallier via la rivière Mana le village de Maripasoula à quelques 240 km à l'intérieur des terres. Cette première partie du voyage se passe bien malgré les multiples difficultés que présente la rivière. Un épisode de lutte au couteau contre un caïman assure même à Raymond le respect des autres membres de l'équipe. Mais les choses vont vite se gâter. Raymond Maufray se sent de plus en plus oppressé par cette forêt sauvage. La nuit, il est torturé par des images de la guerre à Toulon. Le jour, c'est la dysenterie qui le tourmente. Mais il poursuit néanmoins son périple direction Grigel, toujours plus au sud. Il est tour à tour escorté d'un gendarme rencontré en route, puis d'un groupe de Bushinangue, des descendants d'esclaves africains qu'il croise également sur son chemin. Mais vient le temps de la séparation, et le 11 décembre, malgré un état de santé déjà dégradé, Raymond Maufray poursuit seul et à pied son périple à travers la jungle. Enfin seul, pas vraiment, car à Cayenne, on lui a fait cadeau d'un chien Bobby. Le 11 décembre donc, nous sommes un mois avant sa dernière entrée dans le journal, un mois qui va s'avérer terriblement éprouvant. Marcher en forêt, s'éployer sous le sac à chaque pas, trébucher, glisser, tomber, écrit-il dans ses carnets. C'est aussi se glisser, ramper, marcher à genoux à quatre pattes, c'est se barbouiller de toiles d'araignées gluantes, se couvrir de fourmis, défoncer un nid de mouches méchantes et se retrouver enflé, meurtri, harassé, épuisé, saignant. De surcroît, Raymond Maufray est affamé. La chasse et la pêche sur lesquelles il comptait pour se nourrir ne suffisent pas. Oh, il parvient bien à attraper quelques lézards, des escargots et même un singe et une tortue, mais pas assez. Alors, le 3 janvier, alors qu'il est au bord d'une rivière désespérée et à bout de force, Raymond tue, dépèce et dévore son chien Bobby. Il a touché le fond, il le sait. Alors il prend la seule décision valable, modifier son itinéraire et rallier au plus vite le village le plus proche, à 70 km de là. Ayant échoué à construire un radeau, Maufray décide de partir, sans doute à la nage, laissant ses affaires derrière lui. Dans son journal, dans lequel il écrit ces mots, « À bientôt, parents chéris. Je vous ai juré de revenir, je reviendrai, si Dieu le permet. » On n'aura plus jamais de nouvelles de lui. Quelque chose, quelque part, l'aura empêché de tenir sa promesse, et Dieu ne l'aura pas non plus permis.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour en savoir plus sur Raymond Maufray, nous sommes avec un explorateur qui a marché dans ses pas, Stéphane. Bonjour Elliot Schoenfeld.
Bonjour.
Bonjour Elliot Schoenfeld, vous êtes à 29 ans le plus jeune membre de la Société des explorateurs français, mais aussi écrivain et réalisateur. Après l'Islande, la Mongolie, l'Alaska et une marche au-dessus de l'Himalaya, vous avez en effet dernièrement suivi les pas de Raymond Maufray, une expédition hors norme que vous racontez dans Amazonie sur les traces d'un aventurier disparu aux éditions Payot. C'est un livre, le sien Aventure en Guyane, basé sur les notes retrouvées de Raymond Maufray qui vous a donné envie d'aller sur ses traces. Quand on connaît sa triste fin, Au fond, qu'est-ce qui vous a motivé ?
Oui, c'est une bonne question qui peut étonner. Mais ce qui m'a motivé, moi, c'est comme vous l'avez dit, ce livre que j'ai rencontré par hasard dans une librairie, que j'ai pris et je l'ai lu du premier jusqu'au dernier mot, assis dans la librairie. Et je suis sorti du magasin et 3 semaines plus tard, je partais en Guyane avec le désir très urgent de refaire son parcours et de tenter de retrouver Raymond Maufré dans la jungle. Mmh. Et ce qui m'a touché, c'est vraiment l'écriture et la personne de ce garçon-là, quoi. J'ai eu l'impression de rencontrer un meilleur ami ou un frère que j'avais jamais rencontré à 70 années d'écart. Et je me suis senti vraiment très proche de la relation qu'il avait avec l'Amazonie, avec ce qu'il recherchait là-bas, avec ce qu'il l'avait poussé à quitter sa vie de citadin, etc. Donc c'est toutes ces choses-là qui m'ont donné envie d'aller essayer de vivre ce qu'il avait vécu là-bas.
Alors lui, il s'en est pas tiré. Vous, si. Est-ce que vous avez une préparation que Raymond Maufré n'avait pas pour affronter seul l'Amazonie ? Stéphane évoquait le fait que Maufré ne semblait pas si confiant au moment de son départ en Guyane. Est-ce qu'il s'était bien préparé à ce voyage ?
Je pense qu'il s'était quand même assez bien préparé, c'est-à-dire qu'il avait déjà effectué une expédition quelques années plus tôt dans la jungle brésilienne, même si elle était différente, ça lui a appris beaucoup de choses. Il avait commencé à apprendre des langues d'indigènes de Guyane, il s'était mis en forme physique, etc. Le problème,
c'était pas un amateur, quoi.
C'était pas un amateur. Après, son projet était tellement ambitieux que je sais pas si c'était possible de s'y préparer. Et le problème, c'est qu'il lui arrive quand même des soucis. Par exemple, le canot avec lequel il a débuté son expédition était troué, donc il devait écoper tout le temps, quoi, pour enlever l'eau qui s'infiltrait dans son bateau. Et donc, c'est des choses comme ça qui l'ont vraiment épuisé. Et la partie où il a marché dans la jungle, il s'était chargé de 30 kilos de bagages parce qu'il avait des kilos et des kilos d'objets à offrir aux Indiens aux yeux bleus et aux très grands quand il les rencontrerait. Donc il était extrêmement chargé et il avait un projet qui était peut-être trop ambitieux. Son rêve était peut-être trop grand. Voilà.
Vous êtes parti plus légèrement. Mais à travers ces notes retrouvées, est-ce qu'il y a des indications, des éléments qui vous ont aidé, vous, dans votre expédition en Amazonie ?
Ben oui, c'était ça qui était très étrange dans mon voyage, c'est que il y avait le fantôme de Maufré qui était vraiment à côté de moi pendant tout le long et chaque jour je lisais religieusement son carnet et c'était très étonnant de voir vraiment quasiment mot pour mot tout ce qu'il décrivait dans la jungle, toutes les émotions qu'il ressentait, les animaux, la forme des arbres, les couleurs qu'il y voyait, mais aussi la faim, la douleur de la marche, l'émerveillement, enfin toutes ces sortes d'émotions que je vivais à mon tour. Donc il y a une relation très étrange qui s'est instaurée et moi j'avais l'impression au bout d'un moment que j'étais dans ma pirogue et qu'au prochain tournant j'allais croiser Maufré installé dans son hamac avec son chien Bobby en train de fumer sa pipe parce que la jungle a heureusement, en tout cas la jungle de cette partie de Guyane a heureusement assez peu changé et donc j'arrivais à reconnaître vraiment très précisément tout ce qu'il a écrit dans son propre carnet.
Dans votre film vous semblez aussi douter, lutter, on a un extrait, écoutez.
Je sais pas si c'est parce que je vais sur les traces d'un mort, mais en fait j'ai peur.
Je vais être complètement prisonnier des lianes. J'ai l'impression d'être bientôt au-delà de mes limites.
Je sais pas comment passer, j'arrive pas à passer.
Le problème c'est la bouffe, j'en ai plus assez, je me rationne trop.
J'ai l'impression que mon corps me lâche.
Vous avez vécu des moments très difficiles, vous aussi, visiblement. C'est pas plus simple de nos jours, quoi.
Non, en fait, j'ai fait vraiment le pari d'essayer de le faire dans les mêmes conditions que Raymond Maufré. Et je pense que cette expédition est un peu folle, autant la sienne que la nôtre. Je pense que le rêve qu'on partage tous les deux, à savoir se rendre dans la jungle, essayer de retrouver les instincts oubliés, essayer de réapprendre à vivre sur Terre, ça nous a vraiment fait brûler des étapes à tous les deux. Comme je l'ai dit, moi, cette expédition, elle est née un peu d'un coup de folie, quoi. C'est-à-dire que je suis tombé sur ce livre, je me suis 3 semaines plus tard, j'étais en Guyane, donc ma préparation a été très rudimentaire. J'avais pris très peu de provisions avec moi et je comptais pêcher, je comptais cueillir, etc. Et en fait, j'avais beaucoup de connaissances que je possédais pas et je me suis mis dans une situation assez problématique et assez proche de celle
c'est
de mon frère.
Pourquoi on trouve pas beaucoup de choses à manger ?
C'est difficile, plus difficile de chasser.
C'est plus difficile de chasser, de pêcher qu'on l'imagine.
C'est-à-dire que pour nous deux, à savoir Raymond Maufré et moi-même, qui sommes des hommes civilisés de la ville, ça l'est. Après, si vous rencontrez des Indiens, comme j'en ai rencontré au début et à la fin de l'expédition, ça l'est pas du tout et c'est C'est-à-dire que dès qu'il va, ils vont voir un animal qui se promène dans cet arbre-là, ça va leur indiquer qu'il y aura ce fruit qui devrait être à côté. Et ce fruit, eh ben, il y a des graines qui permettent de pêcher des poissons, etc. Donc, il y a vraiment des connaissances importantes à posséder pour espérer vivre dans la jungle plutôt que d'y survivre. Et c'est vrai que pendant mon expédition, j'ai réussi à survivre dans la jungle amazonienne, mais je suis pas parvenu à y vivre.
Vous racontez aussi que vous aviez un téléphone satellite, pas comme Moffray, mais que dans la jungle, en fait, il fonctionnait pas. Donc, c'est vous étiez finalement dans les mêmes conditions que Moffray, vraiment.
Oui, c'est ça. J'avais un téléphone satellite. C'était un peu la condition de mes parents pour que je fasse ce métier. Et oui, il y a une fois où je me suis senti extrêmement affaibli, où je commençais à avoir une douleur très importante au bas du ventre et derrière le dos. Et donc, j'ai essayé d'appeler à l'aide. Et effectivement, en fait, on capte pas sous la canopée. Donc, le téléphone était tout à fait inutile. Et donc, je ne pouvais compter que sur moi-même, quoi. Il n'y avait pas d'option. Comme l'écrivait lui-même Moffray, soit il allait réussir, soit il allait mourir. Et donc, moi, je me suis retrouvé à ce moment-là dans la même situation. Et heureusement, j'ai réussi à atteindre le fameux village qu'il a essayé d'atteindre 70 années plus tôt à la nage.
Une dernière question. Ce voyage lui a malheureusement coûté la vie. En quoi ce voyage a changé votre vie? Au-delà de devenir le premier homme à avoir achevé cette aventure en solitaire et trouver ce fameux village.
Mais en tout cas, moi, une leçon quand même que j'ai appris de cette expédition, et je pense que c'est aussi une leçon qu'il a appris lui, Raymond Moffray, parce qu'il l'écrit, c'est que on présente souvent l'Amazonie comme un endroit extrêmement hostile, extrêmement dangereux, avec des animaux très assoiffés de sang et des peuples qui y vivent tout aussi dangereux. Moi, ce que j'y ai appris, c'est que c'est pas la jungle qui est dangereuse, ce qui nous a mis en danger, moi et Raymond Moffray, c'est vraiment notre ignorance de cet endroit-là, et nous deux, hommes civilisés, on n'avait pas les armes et les savoirs pour pouvoir y survivre, simplement. Et je pense que le rêve de Raymond Moffray, c'était d'aller rencontrer cette tribu pour réapprendre tous ces savoirs que la civilisation lui avait fait oublier, de réapprendre à vivre sur Terre, de réapprendre à chasser, de réapprendre à vivre dans cet endroit-là, dans la nature sauvage. Et malheureusement, il a pas pu aller au bout de son rêve parce que, encore une fois, son ignorance et non la jungle l'a mis en danger et peut-être l'a tué. Voilà.
Merci beaucoup, Elliot Schoenfeld, de nous avoir entraîné avec vous sur les pas de Raymond Moffray. Je rappelle votre livre qui raconte cette incroyable expédition Amazonie aux éditions Payot et le film Amazonie dans les pas de Moffray, disponible en DVD et en VOD. Et pour tous ceux qui voudraient le lire aussi, eh bien, il y a le livre tiré des notes de Raymond Moffray, Aventures en Guyane, est toujours disponible aux éditions Point. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous.
16h, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages qui ont zoné dans l'Amazonie. Après Charles-Marie de la Condamine et Raymond Moffray, Mathieu, vous nous brossez le portrait à 99% vrai d'un survivant de l'Amazonie qui est encore parmi nous, Antonio Senna.
Le vénéré Raoni, grand défenseur de la forêt amazonienne et des cendriers en retin dans les lèvres, a dit un jour « L'Amazonie, c'est à la fois le plus bel endroit du monde et le pire ». Stéphane, est-ce que vous avez déjà été perdu dans une forêt?
Chez les Rothschild, oui.
Non, non. Oui, alors là, vous allez voir, ce qui est arrivé à Antonio Senna est un peu différent. La forêt n'était pas dans le parc des Rothschild après Nishambézi, mais au milieu de la jungle amazonienne. Pas un 3 étoiles Michelin à 1000 km à la ronde, pas même un bip gourmand.
Quelle horreur.
C'est le calvaire qu'a vécu Antonio pendant 36 jours. 36 jours sans pouvoir consulter son portefeuille boursier. Je ne sais pas si vous imaginez, Stéphane.
Je vais faire mourir.
Oui, l'histoire d'Antonio Senna est terrible. Pour beaucoup d'entre nous, l'aventure, c'est de se retrouver au rayon surgelé du Franprix et de réaliser qu'on n'a plus de batterie sur notre smartphone et qu'on va devoir donc se remémorer la liste des courses sans l'appli Note. Pour Antonio, l'aventure, c'est un peu plus que ça. Un peu de contexte d'abord. Antonio naît à Santarém, pôle de la navigation fluviale au nord du Brésil. Il se décrit lui-même comme un Amazonien pur sucre. Début 2021, soit en pleine pandémie mondiale, Antonio a une idée lumineuse. Tiens, et si j'achetais un resto ? Pas con, la restauration en le vend en poupe, c'est le moment d'investir. Bizarrement, son resto se casse la gueule en deux mois, la politique du quoi qu'il en coutigne ayant été moins appliquée au Brésil que chez nous. Antonio est pris à la gorge, il n'arrive plus à faire bouillir la marmite de feijoada. C'est là qu'un ami pilote d'avion lui propose un bon plan, pas du tout risqué et qui peut rapporter gros, ravitailler des campements d'orpailleurs illégaux dans la forêt amazonienne. Antonio a une éthique, il hésite, puis il finit par accepter. Ah ça va, hein, des concessions, On en a tous fait dans nos vies. Je vous rappelle, Stéphane, qu'une fois, vous avez même collaboré sur l'album des Bratislava Boys.
Stache, stache, cette clameur venue de l'Est bouscule irrévocablement nos oreilles casanières. Stache, stache.
Vous l'aviez oublié. Figurez-vous que c'est mon meilleur ami qui m'a envoyé ça l'autre jour. Il m'a dit, tu l'avais écouté celle-là? J'ai dit non. Donc voilà, je l'ai ajouté dans mes favoris sur Deezer. Oui. Stache, stache, préambule à l'album des Bratislava Boys. Le 28 janvier dernier, Antonio survole la forêt amazonienne à bord d'un monomoteur dont personne n'a pris le soin de vérifier le carnet d'entretien. But de la mission, ravitailler en fuel et en sandwich des types qui bossent dans des mines inégales dans la réserve biologique Maikuru. Hélas, après à peine une heure de vol, la machine s'emballe, le moteur lâche, Antonio s'écrase dans la jungle. Le kérosène se répand sur les sandwichs Sodebo, les rendant de fait immangeables, encore plus immangeables. Antonio, lui, est vivant, mais pas bien. De la carcasse fumante, il réussit à extraire de l'eau, du pain, une corde et un briquet. Il se dit « ça m'aidera à tenir deux jours ». À 34 près, le compte était bon. Au départ, Antonio veut croire à l'arrivée des secours, qu'il décide donc d'attendre, on peut dire comme un con. Il attend pendant 8 jours et 7 nuits, il attend, puis au bout de 7 jours, quand même, il se dit ils viendront pas, là, les mecs. Et au moment où il se dit ça, qu'est-ce qu'il voit débarquer ?
Patrick Sabatier.
Non, Stéphane, des hélicoptères. Il est sauvé ! Merci la vie, c'est un miracle, et c'est donc aussi la fin de ma chronique. Quoi déjà ? Eh bien non, parce que vous savez quoi, Stéphane ? Les hélicos, ils étaient conduits par des presbytes qui passent au-dessus de l'épave en feu, mais ne la voient pas ! Cette fois, Antonio comprend qu'il ne va devoir compter que sur lui-même. Par chance, son téléphone a encore un peu de batterie, et si c'était l'occasion ou jamais d'utiliser l'application Boussole, qui normalement ne sert à rien. Antonio se dirige alors vers l'Est. Pourquoi l'Est ? Vous demanderez-vous certainement, Stéphane ? Demandez-le-moi !
Pourquoi l'Est, Mathieu ?
Mais excellente question, Stéphane. Eh bien, l'Est, parce que son GPS indique à Antonio que dans cette direction, il y a des pistes d'atterrissage qui pourraient suggérer une présence humaine. Voilà donc Antonio avançant à tâtons dans les méandres luxuriants d'une jungle inviolée, enveloppé des bruits tantôt rassurants, tantôt inquiétants d'une faune invisible.
Coin, coin, kikiriki, kikiriki.
C'est pas très inquiétant, si je puis me permettre.
Écoute, on a nos sons.
À mon avis, il doit y avoir des animaux beaucoup plus terribles.
Le premier jour de marche, oui, mais je pouvais pas mettre quand vous faisiez l'anaconda. Le premier jour de marche, Antonio, qui décidément n'a pas inventé le fil à couper le beurre, décide de prendre plein de photos souvenirs avec son portable. Pour se nourrir, il s'inspire des singes araignées. Je regardais ce qu'ils mangeaient et je mangeais exactement la même chose, me disant que ça devait être comestible. Analyse Antonio, finalement pas si con. Mais vous connaissez les singes, Stéphane, aussi territoriaux et protecteurs qu'un garde forestier corse. Vexés qu'on touche à leurs fruits, ils vont littéralement chasser Antonio de leur spot de cueillette. Errant de plus en plus au hasard, Antonio en est réduit à voler des œufs de timanou à gorge blanche, une sorte de poule d'eau amazonienne. Seul, exténué et sans Lonely Planet, il commence à perdre la boule. Il raconte « Je n'ai pas lutté contre la forêt, j'avais besoin d'elle et elle était là pour m'aider. Au milieu du désert, je n'aurais pas eu d'eau, la forêt, elle, m'en donnait. » Oui, ça c'est sûr, ça flotte en Amazonie. Et c'est grâce à ça qu'Antonio a pu survivre 36 jours. C'est lors de son 35e jour de marche qu'il entend enfin un premier signe de présence humaine autour de lui. Ah, le doux bruit de la civilisation. Heureusement que Bolsonaro avait envoyé des gens couper du bois. N'en déplaise à Raoni. Finalement, Antonio arrive dans un campement de cueilleurs de noix qui lui portent secours. Le fait d'avoir été sauvé par des gens qui travaillent en harmonie avec la nature, c'était magique, raconte celui dont l'aventure devrait bientôt faire l'objet d'une adaptation cinématographique, avec, murmure-t-on, une star mondiale dans le rôle-titre. En attendant de voir ses tribulations adaptées sur grand écran, Antonio, lui, tente de se réadapter à la vie normale. Ses proches le trouvent très différent, marqué à vie, évoquant ses pupilles désormais toujours dilatées comme celles d'un félin en chasse. Les médecins qui auscultent Antonio après son retour étaient assez stupéfaits. Seulement quelques blessures légères, 25 kilos de perdu quand même, mais aucune fracture, aucune maladie ou infection. La forêt me manque, explique Antonio, qui a fait un truc dingue. À peine une semaine après son sauvetage, il a embarqué à nouveau dans un avion pour retrouver le lieu où il s'était crashé. Grâce au parcours GPS enregistré sur son téléphone, il voit la carcasse de son appareil échoué et il réalise qu'il n'a parcouru que 27 km, soit moins de 1 km par jour de marche. Antonio est presque déçu, mais plus que jamais engagé pour la défense de la forêt amazonienne. Pour en savoir plus, je vous conseille le livre qu'il a écrit. Vous savez comment il l'a intitulé ?
Le pétomane et le renard.
Non ! Alors non, Stéphane, peu de renards dans la forêt amazonienne. Non, restez vivant jusqu'au bout, c'est plus sobre. Oui.
36 jours dans l'enfer de la forêt amazonienne. Le livre d'Antonio Senna est paru chez Ixo Éditions.
Mais oui.
Mais enfin, bon, il n'a pas marché beaucoup. 27 kilomètres.
Oh, ben c'est quand même pas mal, 27 kilomètres. Oui, c'est vrai que c'était un peu une feignasse, c'est ça que vous voulez dire?
Oui.
Antonio feignasse, si tu
mais
nous
vous
écoutes.
Vous l'avez dit, il était un peu limite.
Oui, il était un peu. Il s'est fait les photos avec son portable et après, il n'avait plus de batterie. C'est vraiment un petit peu con, quand même.
Merci beaucoup, Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour, ces zonards de l'Amazonie, pour retrouver deux zonards du journalisme d'investigation.
Mais des aventuriers aussi, à leur manière, il faut faut un sacré goût de l'aventure pour bouffer de la poutine, Olivier Pouls.
Ouais, ouais,
c'est violent aussi.
Il faut partir au Québec, mais peut-être même pas d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, c'est un plat qui s'est répandu un peu partout. Il y a une mode de la poutine, je ne sais pas pourquoi, ouais. Mais un plat tendance. Même à Paris, on en trouve.
Mais tout de suite, David Castello-Lopez nous entraîne aux origines de quelque chose qui fait notre quotidien, et particulièrement en ce moment, les sondages.
Oui. Vous vous souvenez, le 21 avril 2002 Moi, j'avais 20 ans, Mathieu, vous en aviez 19, Olivier 31, Stéphane 38.
31 ?
Ouais. Ah, c'était, oui. C'était pendant les vacances de Pâques. Moi, j'étais devant ma télévision. J'avais voté Chevènement.
Oh, moi aussi, dans mes bras, on est pareil, hein. C'est dingue.
Ça m'a valu quand même beaucoup d'insultes de la part de mon entourage. Et là, bam, Jean-Marie Le Pen au second tour. Lionel Jospin qui se retire de la vie politique devant des filles de licence de lettres qui pleurent de désespoir. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Et immédiatement, tout le monde qui tombe sur le dos de ces FDP d'instituts de sondage qui, une fois de plus, ont dit n'importe quoi. Et pourquoi est-ce qu'on leur fait confiance à ces cons? C'est vraiment la lie de l'humanité. On nous avait dit que le second tour, ce serait Jospin-Chirac et c'est Chirac-Le Pen. Quoi? Naze? Bande de nazes. Mais bon, ce 11 septembre de la politique, comme on l'a appelé à l'époque, ça fera 20 ans dans quelques semaines qu'il a eu lieu. Et franchement, tout le monde regarde encore les sondages partout, tout le temps. Et donc, ça donne envie de savoir quand est-ce qu'on a commencé à les faire. Bon, les tout premiers dont on trouve la trace sûre, c'est au début du 19e siècle aux États-Unis. Et ils étaient faits avec une méthode assez rudimentaire qui consistait à demander à plein de gens pour qui ils allaient voter et de faire des statistiques. Et puis, il y a eu les élections présidentielles de 1936 aux États-Unis. Et là, il y a des magazines américains, un des magazines américains les plus prestigieux de l'époque, qui s'appelait le Literary Digest, qui a lancé un des plus gros sondages jamais réalisés dans le monde. Il a envoyé 10 millions de lettres à 10 millions de personnes aux États-Unis, un quart de toutes les personnes en âge de voter, en leur demandant s'ils allaient voter plutôt pour le candidat démocrate Franklin Roosevelt, qui était aussi le président sortant, ou pour le candidat républicain Alf Landon. Sur les 10 millions d'Américains qui ont reçu la lettre au Literary Digest, il y en a 2,4 millions qui ont répondu, ce qui est déjà incroyablement gigantesque. Et grâce à ça, le Literary Digest a prédit que Alf Landon allait remporter l'élection avec 57% des voix. Mais en fait, non seulement Alf Landon a perdu l'élection, mais il l'a super perdu, quoi. Il a eu que 37% des suffrages contre 61% pour Roosevelt. Donc c'était la grosse, grosse honte pour le Literary Digest. Et c'était d'autant plus la honte que pendant qu'ils faisaient leur sondage auprès de 2,5 millions de personnes, il y avait un autre sondeur, beaucoup plus modeste, qui en sondant simplement 50 000 personnes, avait non seulement prédit la victoire de Roosevelt, mais il s'était trompé que d'1%. Et ce monsieur, il s'appelait George Gallup. Mais alors comment c'est possible? Comment c'est possible? Pourquoi le Digest s'est trompé à ce point alors qu'ils avaient un échantillon 50 fois plus grand que celui de Gallup?
Ils ont pas fait des panels.
Eh bien, pour deux raisons. Un, pour choisir les 10 millions de personnes auxquelles ils ont envoyé le sondage, ils sont basés sur l'annuaire téléphonique et sur la liste des gens qui étaient abonnés à leur magazine. Or, les gens qui avaient un téléphone à ce moment-là et ceux qui étaient abonnés à des magazines, c'était pas des gens des classes populaires. Voilà, c'était un certain type de gens. Et deux, ils ont fait leur sondage par la poste. Or, renvoyer un bulletin par la poste, c'est chiant. Donc les gens qui ont répondu, ils étaient très motivés. Il y a des recherches ensuite qui ont montré que les gens qui étaient le plus motivés dans cette élection, ce sont ceux qui n'aimaient pas Roosevelt. Et donc ils ont été complètement surreprésentés dans les résultats du sondage du Literary Digest. Du Literary Digest, c'est très dur à dire. Pendant ce temps-là, Gallup, lui, il a pris que 50 000 personnes, donc, mais il les a choisis de façon très précise pour en faire un échantillon représentatif de la population américaine. C'était une technique qui venait du marketing, ça, et qui était pour la première fois adaptée à un sondage. Et à partir de là, Gallup, c'est devenu une star mondiale du sondage. C'est de lui que date l'essor des sondages d'opinion. Et l'entreprise qu'il a créée existe toujours. On voit encore très régulièrement des sondages.
Ouais, c'est du Gallup.
Voilà. Aujourd'hui, les sondages, c'est quand même devenu une petite obsession. En France, par exemple, le nombre de sondages réalisés pour les élections présidentielles, il était multiplié par plus de 20 depuis 1974. Alors bien sûr, on parle quand même très souvent des erreurs massives, genre 2002. Mais il faut voir que dans l'ensemble, les sondages, ils se trompent assez peu. Au premier tour des élections présidentielles en France, par exemple, depuis 1965, ils se sont trompés que deux fois. En 1995, ils pensaient que Chirac arriverait en tête devant Jospin, alors que c'est Jospin qui arrivait en tête devant Chirac. Bon, ça va. Et en 2002, évidemment, le 11 septembre de la politique. Mais le truc, c'est que même là, si on regarde de plus près, ils ne sont pas tant trompés que ça. L'IFOP, ils avaient mis Jospin à 18% et Le Pen à 14%, mais ils précisaient bien qu'il y avait une marge d'erreur de 3%. Alors, si vous enlevez 3% en 18 de Jospin et que vous en ajoutez 3 ou 14 de Le Pen, eh bien, vous tombez à peu près sur les vrais scores du 21 avril 2002.
Vous avez bien défendu les instituts de sondage.
Exactement.
Bravo.
Bravo.
Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion
et sur le site europe1.fr.
Historiquement vôtre.
Et maintenant, que vais-je faire peut-être?
Au moins 25% des personnes présentes dans ce studio aiment la poutine.
Oui, ça c'est sûr, mais moi je dis pas que j'aime pas. Moi, je veux bien vous suivre là-dessus, mais ça m'a l'air quand même un petit peu calorique.
Oui, c'est un peu calorique. Et puis, pour un Belge, défendre la poutine, qui est une manière de présenter ou de proposer la frite différemment, c'est peut-être un petit peu difficile. Il y a des concessions à faire. Mais bon, je vais l'accepter. Alors, pour ce qui est de l'origine de la poutine, alors là, c'est la guerre. C'est la guerre parce que 3 restaurants québécois revendiquent l'invention de la poutine.
Ah, et autant vous dire que civile québécoise, il n'y a pas d'autres pays qui revendiquent.
Non, c'est québécois et on peut même dire qu'aujourd'hui c'est l'un des grands emblèmes de la gastronomie québécoise parce que la poutine c'est aussi beaucoup, on va dire chiquisé entre guillemets. Il y a des grands chefs qui se sont intéressés à la poutine, qui l'ont réadaptée et les québécois qui ont eu honte pendant longtemps de leur poutine parce que c'était un truc un peu lourd, un peu gras, un peu populaire. Aujourd'hui, en sont extrêmement fiers et autant vous dire que celui qui a effectivement inventé la poutine, bah, il mérite très certainement d'avoir sa statue à Québec. Alors, il y a 3 restaurants, je disais, qui revendiquent l'invention de la poutine. Il y a le roi Joussep à Durmontville. Alors, lui, dans les années 50, dans son premier restaurant, Jean-Paul Roy, il avait un restaurant qui s'appelait Roi de la Patate, ça s'invente pas. Alors, il servait des frites accompagnées d'une sauce brune et certains clients réclamaient en plus du fromage. Et donc, ça, c'est le concept de la poutine. C'est ces 3 éléments mis ensemble. Et lorsqu'il rachète donc le Joussep, il met cette recette à la carte et lui choisit un nom. Alors il dit qu'il était inspiré par un de ses cuisiniers qu'on surnommait Tipout. Et Tipout faisait de la poutine. Voilà, ça c'est une des...
Ça viendrait de là.
Ouais, ça c'est une des idées. Alors, un peu plus loin, une cinquantaine de kilomètres de là, il y a le Café Idéal à Warwick, qui prétend que c'est un client qui, lui, dans les années 50, avait demandé que soient mélangés dans un même sac les 3 ingrédients, les frites, le fromage et la sauce. Tout ça, ce serait évidemment mélangé ensemble. On leur a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette poutine? Et ainsi serait née cette création.
Et pourquoi on aurait dit ça?
Ah ben, parce que j'imagine qu'il doit y avoir une expression québécoise qui doit s'approcher de ça, en tout cas. Ouais. Et puis, à la Petite Vache aussi, à Princeville, où on vendait du fromage à la caisse du restaurant, parce qu'il y avait une fromagerie juste à côté, et certains clients qui venaient prendre leur plat de frites achetaient en même temps un petit peu de fromage, ils mettaient leur sauce et ils faisaient le mix à table, et c'est eux aussi qui prétendent avoir été les premiers à faire de la poutine. Alors, en fait, on s'en fout un peu. Parce que la réalité, c'est que la poutine, on peut la préparer, on va la manger, on va la déguster. Et je vais donc vous donner la recette de la poutine que vous allez pouvoir faire chez vous. Alors, donc, 3 ingrédients composent la poutine. Des frites. Alors, les frites, je vais pas revenir dessus. Une variété à frites. Cuisson 2 fois, évidemment. Première cuisson, 150 degrés pendant 7 minutes. Ensuite, on monte à 180 degrés. Deuxième cuisson pour avoir les frites croustillantes. Ça, c'est fait. Alors, il faut du fromage. Le cheddar est le fromage traditionnel de la poutine. On va émietter et friter. Et puis la sauce. Alors c'est une sauce qui est faite à base de bouillon de bœuf dans laquelle on va rajouter de la moutarde, un peu du citron, un peu de sucre, de la cassonade, un peu de sauce Worcestershire. Là, vous savez cette sauce au nom un prénom imprononçable.
Est-ce que David sait dire la sauce Worcestershire? J'ai jamais réussi.
Worcestershire.
C'est ça. Worcestershire. Ouais. Voilà. Bon, tout ça est mélangé ensemble, un petit peu réduit et lié avec une espèce de roux, donc un petit peu de fécule de maïs. Mmh. On verse la sauce sur les frites, on rajoute le fromage. Bon, pour moi, ça la triste conséquence de ramollir quand même la frite.
Mais oui, c'est un peu l'inconvénient. Personne n'a trouvé un moyen pour garder la frite croustillante.
Je vais travailler là-dessus.
On n'a qu'à faire un espuma de poutine, quelque chose un peu plus léger. On pourrait réinventer les choses.
Alors, on pourrait, mais en fait, c'est évidemment la sauce. À partir du moment où on reste longtemps en contact avec la frite, il n'y a rien à faire, elle sumec. Mais bon, écoutez, c'est pas si mal. C'est un bon plat d'hiver, c'est
très
réconfortant.
Bien. Puis derrière, un bon banana split, et c'est le gage d'une belle soirée. Voilà. Merci Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.
Et pour terminer, ça va être aussi violent qu'avec Poutine, mais l'autre. On va jouer avec l'histoire. Vous êtes prêts à vous affronter? Allez. C'est la lutte finale.
Allons. Europe 1, historiquement vôtre.
Je commence par vous, Olivier. C'est vrai que ça fait quelque temps, je l'avais un peu délaissé. Histoire des courants de pensée du XXe siècle. L'andinisme a été lancé par Maurice Merleau-Ponty. Il consiste à trouver le mensonge moral si tant est qu'il évite une souffrance inutile. C'est vrai ou c'est faux?
Jean, si je dis à Mathieu Noël que ce qu'il m'a fait à manger est très bon, pour pas le vexer,
voilà,
et pour
exactement.
Pas le
est-ce
mettre...
que ça c'est de l'andinisme ou pas?
Bon, honnêtement, j'en ai pas vraiment, j'ai pas vraiment idée. Donc c'est un peu du hasard. Je vais dire que c'est vrai. Allez.
C'est pas des Andes,
des Andes.
Oui, voilà, l'andinisme, c'est faire une escalade dans les Andes.
Comme la vie. Et si vous allez dans les Alpes, c'est de l'alpinisme.
Et dans les Pyrénées.
Si vous êtes dans les Andes,
et dans Pyrénées. Dans l'Himalaya, de l'Himalayisme.
L'Himalaya. Voilà. Faites-vous aussi votre petite, votre mot qui convient à votre montagne.
Alors le mensonge moral, c'est quoi alors?
N'en demande pas trop.
C'est du Merleau-Ponty.
Relis Merleau-Ponty, éloge de la fuite. Tu nous diras.
Alors, David Castello-Lopez,
ouais.
Histoire du cinéma. La fureur du dragon, saletant pour un flic, dent pour dent, gloire à Chuck Norris et son impressionnante carrière. Son vrai nom à Chuck Norris, c'était Carlos. Vrai ou faux?
Son vrai nom, c'est Carlos. Carlos Norris, est-ce qu'il a une tête à s'appeler Carlos? Non, hein, voilà, ça c'est ça la vérité.
C'est très injuste. D'où vient-il?
Ah, il vient du Mexique? Bon, là, je vais dire que c'est vrai, voilà.
Carlos Rey Norris.
Bien sûr.
L'acteur est d'origine amérindienne et irlandaise.
Ah, mais ouais.
Mais
c'est un mix.
Mais enfin, il n'y a pas d'Espagne. Y a pas de, Carlos, pas un nom amérindien particulièrement. Non
ne cherche pas trop loin, David. Voilà. C'est comme ça, c'est que ça reste.
Alors, Mathieu. Norris.
Oui.
Le questionnaire de Proust n'est pas de Proust. C'est à l'origine un test anglais. Le premier questionnaire de Proust où Marcel répond date de 1890, il avait 19 ans. En 2018, on a retrouvé un autre questionnaire authentifié également rempli par Proust. Marcel avait 15 ans. C'est vrai ou c'est faux?
Beaucoup d'informations. Bah,
vu le degré de oui. précision de la question, je vois pas comment en ça gros, pourrait être faux, sauf que si en fait il avait 16 ans, puis il vous ferait ensuite « Ah, il avait 16 ans, vous avez perdu hein, !» Par ça, je trouvais ça ridicule. Je trouvais que ça serait une honte pour vous, Stéphane, donc je vais répondre vrai.
Bah oui, c'est vrai, tout simplement. Alors, il faut une question qui vous départage, David et vous, Mathieu.
Oui.
La réponse la plus proche remporte la lutte finale. Parfois, la vie est une chienne.
Ah, oh, ça c'est sûr.
Henry Gunther est un soldat américain mort au combat pour la France durant la Première Guerre mondiale. Particularité, il est officiellement le dernier militaire tué de ce conflit. Combien de temps a-t-il été tué avant l'armistice?
Mais c'est forcément avant ou ça peut être après?
Avant.
Il y en a qui n'étaient peut-être pas informés. Lui, c'est avant. D'accord, ça pose la question. Combien de temps, en jours, en ce que vous voulez?
D'accord. Je vois que David a déjà la réponse.
David le sait, à mon avis.
Non, je sais.
Alors.
Moi, je me dis 12 minutes.
12 minutes et vous?
14 minutes.
14 minutes.
T'es prêt, hein?
Oui. C'est vous qui gagnez, Mathieu. Une minute.
Oh, c'est vraiment la faute d'un
peu de
bol là.
Ça n'avait pas de sens si c'était trop loin, vous voyez.
Oui, c'est vrai. Mais oui. Enfin, même à quelques heures près, ça aurait déjà été triste. Hein.
Ouais. On ne sait pas pourquoi. Henry s'est dirigé avec quelques autres vers les tranchées allemandes. Il est tué de 5 balles, 60 secondes avant que les Allemands et les Américains fraternisent, échangent cigarettes. Et chocolat, et petite pépée.
Quelques secondes près, c'était la fiesta. Mais
dans certaines îles au Japon, il y a des Japonais qui ont cru encore pendant des années que la guerre continuait.
C'est pour ça que je vous demandais si
c'est une éclatante et inédite victoire de Mathieu Noël.
Tout de suite, pourquoi vous me dévalorisez comme ça, Stéphane? Ça faisait longtemps.
Bravo.
Un nouveau numéro d'Historiquement Votre s'achève. Il était fort des paysans. Stéphane, est-ce que vous connaissez l'Amazonie?
Pas du tout.
Pas de croisière du Ponant par l'Amazonie?
Rien du tout. Non, je ne suis jamais allé dans ces contrées.
Il reste encore des contrées.
Au Brésil, si vous voulez.
Mais pas plus bas.
Mais pas plus bas.
La bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain. Stéphane, vous connaissez déjà le programme? Je crois bien qu'on revient à Paris. Je dis ça pour vous qui en êtes parti.
Oui, demain, il mène la vie parisienne. On réunit celui qui l'a vécu et mis en scène, Jacques Offenbach, le chanteur et acteur star Maurice Chevalier, qui a fait rayonner Paris dans le monde entier.
Et le footballeur star Neymar, qui mène aussi sa vie à Paris au PSG, et ses nuits parisiennes surtout, je vous raconte ça demain. Alors à demain Stéphane, à demain les amis.
À demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.